je vais demander donc à Agathe, Nathanson, Marielle de me rejoindre. Merci beaucoup d'être aujourd'hui à nos côtés. Voilà, merci. Oui,
bonjour.
Et alors, donc, on vient de le voir dans cet extrait. Vous dites que vous avez eu tout de suite des doutes sur ce qui était en train de se passer, que vous aviez compris.
C'est-à-dire que j'avais déjà connu la maladie, hélas, avec ma mère qui a eu la maladie très très jeune et que j'ai accompagnée longtemps. Et quand j'ai connu Jean-Pierre, c'était un monsieur qui avait déjà 65 ans, c'était une rencontre un peu tardive, et je le trouvais un peu bizarre, il répétait énormément les choses, mais comme c'était quand même un homme extravagant et hors du commun, je trouvais ça un peu normal. Enfin, je le découvrais, je me disais, ben, c'est sa personnalité. Mais j'avais quand même un peu des doutes, mais ce n'était pas avéré. Et puis, il se trouve que nous avons répété, dans l'an 2000, on répétait une pièce au théâtre des variétés chez Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Pierre est tombé dans une fosse qui était un endroit qui était là pour faire passer les décors. Et c'était assez profond. Jean-Pierre est tombé, il s'est cassé. Enfin, je ne sais pas comment on dit, déchirer les ligaments et du genou, et il a quand même voulu continuer de jouer. Il a continué à répéter, on était en répétition, il a continué à répéter, mais le texte s'était complètement effacé. C'est-à-dire que ce texte qu'il connaissait par cœur, il était prêt à jouer, c'était très près de la première, s'est complètement effacé. Il a fallu qu'il réapprenne tout le texte, il a fallu qu'on l'aide, et il a donc été très très fragile sur ce problème de mémoire. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est vraiment... Enfin, il est tombé, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il est tombé parce qu'il a fait un léger AVC? Est-ce qu'il est tombé parce qu'il n'a vraiment pas vu le trou? Bref, c'était quand même assez perturbant. Donc à la suite de ça, bon, on a joué, ça s'est très bien passé, mais Jean-Pierre avait néanmoins, pour la première fois de sa vie, besoin de deux personnes en coulisses qui éventuellement étaient là pour souffler s'il avait un trou. Et effectivement, par exemple, le soir de la première, donc je jouais avec lui, à un moment, il devait venir me chercher en coulisses pour me dire « entrez madame machin », et il n'est pas venu me chercher. Donc j'ai attendu, puis finalement je suis entrée toute seule en me disant oh, je ne peux pas le laisser tout seul en scène tout seul, je vais rentrer. Donc vous voyez, il y avait des petites perturbations qui effectivement étaient totalement inhabituelles chez Jean-Pierre. Donc à la suite de ça, j'ai dit oh, bon, on va aller faire un peu des examens. On est allé faire un IRM ou une IRM, je ne sais pas très bien comment on dit, docteur. Et effectivement, on a vu qu'il y avait des taches sur frontal, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, le docteur qui a fait l'IRM a dit, mais il faudrait faire des tests. Et alors, j'ai dit à Jean-Pierre, oh, bon, on va, enfin bon, bref, on est allé faire des tests, il est resté 2 minutes, il a dit effectivement, qu'est-ce que c'est que ces conneries, et il est parti. Si bien que Jean-Pierre n'a jamais, jamais été diagnostiqué. Donc, il était dans un déni total. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Tout allait très bien. Ou du moins, il le disait. Je pense qu'il ne le pensait pas, mais il le disait. Et donc, on a vécu comme ça, cas un cas, jusqu'au bout de la maladie.
Justement, on l'a vu également, il était important pour lui de continuer de vivre normalement, malgré toutes les difficultés, malgré cette médiatisation aussi. Et puis pour vous, le fait de ne pas pouvoir en parler, c'était...
Mais c'était très important parce que jouer, tourner, c'était toute la vie de Jean-Pierre. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Donc, il fallait continuer, coûte que coûte, parce que d'abord, il en avait envie, c'est pas le mot, mais c'était sa vie. Je veux dire, depuis ses 18 ans, il se levait pour aller jouer, il se levait pour aller travailler. Donc, il était hors de question d'arrêter. On aurait arrêté, c'était la vie qui s'arrêtait. Donc, il n'allait pas rester chez lui dans un fauteuil à faire quoi ? Rien. Donc, on a continué, puisque les gens continuaient à lui demander de jouer, de tourner, d'être présent dans son métier. Donc, il fallait continuer. Donc, effectivement, moi, j'ai arrêté de travailler et je l'ai accompagné tout le temps. C'est-à-dire qu'on on n'était plus qu'un, c'est-à-dire j'étais la tête et il était les pieds.
Et le corps.
Et moi, j'étais la tête. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on travaillait en duo. Et bon, l'oreillette, ce n'est pas le seul à se servir d'une oreillette. Il y a beaucoup de comédiens maintenant qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer et qui se servent d'une oreillette. Donc, on avait ce subterfuge qui, pendant, je crois, à peu près 10 ans, a permis à Jean-Pierre de continuer de jouer normalement. Et personne ne s'en apercevait. Et moi-même, qui lui donnais l'oreillette, c'est-à-dire qui soufflais le texte pendant tout le tournage, quand... 6 mois, 1 an après, le film sortait, je me disais, mais il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. Et effectivement, je l'avais entendu puisque je lui avais soufflé. Mais il maniait tellement bien la chose qu'on ne s'en apercevait pas et que moi-même, je l'oubliais. Donc, ça a été magnifique. Pour lui, en tout cas.
Et pendant tout ce temps-là, finalement, en tant qu'aidante, vous, est-ce que... Vous avez pu souffler à un moment donné, le fait de ne pas pouvoir en parler, est-ce que vous avez pu quand même vous confier et être vous-même aidée et soutenue ?
Non. Non, parce qu'il était hors de question que qui que ce soit au courant, même nos amis proches, parce que je pense que ça aurait faussé les rapports de tout le monde. Donc, à part mes enfants et le docteur de la Doucette qui s'occupait de Jean-Pierre, non, personne ne le savait. On trichait. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, Jean-Pierre était extravagant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on ne pouvait pas très, très bien savoir jusqu'à un certain temps si c'était la maladie ou si c'était sa folie naturelle. C'était, voilà, tout ça se mélangeait et les gens avaient la discrétion de faire comme s'ils ne voyaient rien. Parce qu'il était très aimé, donc on le protégeait. Tout le monde le protégeait, d'une certaine façon.
Et dans votre quotidien, vous aviez réussi à pouvoir vous
quotidien. Alors le quotidien était beaucoup plus difficile. Le quotidien était le quotidien de tout le monde. Si vous avez des parents, des conjoints, des frères, des sœurs qui ont la maladie, que ce soit chez Jean-Pierre ou que ce soit chez vous, la maladie était la même. Donc le quotidien était très difficile, très difficile. Bien sûr, j'étais privilégiée parce que je pouvais me faire aider un peu, mais le cœur de notre vie, c'était quand même notre couple et nous deux ensemble, donc nous deux dans la maison. Donc oui, ça c'était difficile parce que au fur et à mesure que la maladie avançait, Jean-Pierre était plus du tout le même homme, évidemment, et c'était devenu un homme violent pour moi. Et violent pour lui, c'est-à-dire qu'il se mettait terriblement en danger parce qu'il a eu une forme de la maladie violente et agressive, pas douce et calme et passive.
Et il a fallu vous résoudre à un moment donné à devoir l'admettre dans un EHPAD. Et vous m'avez confié, quand on a préparé ensemble ce rendez-vous, que ça avait été une décision extrêmement douloureuse.
Ah oui. Vraiment, c'était la décision la plus difficile de ma vie. Le docteur m'avait dit, tu ne peux plus le garder chez toi, ce n'est pas possible. Il faut que tu le mettes dans un établissement. Et j'ai dit, je ne peux pas le mettre dans un établissement, c'est impossible pour moi. Je vais le garder, je vais tout faire pour le garder. J'ai quand même visité des établissements, puis finalement, j'en ai trouvé un, j'y suis allée. C'était pas très loin de chez moi, et là, il y avait une petite dame en rose, très jolie, très pimpante, tout ça, qui me dit, ah mais non, mais vous verrez, regardez, c'est très bien, c'est très joli, il y a un parc, il y a des nappes sur la table, il sera très bien, on s'occupera de lui. Je lui dis, écoutez madame, tout ça c'est très très joli, tout ça c'est l'enveloppe, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est que c'est horrible. C'est qu'il va être avec des gens malades, c'est qu'il va être tout seul dans une chambre, c'est que la nuit, il va déambuler tout seul dans vos couloirs puisqu'il déambule tout le temps. Ça va être horrible. Bon, donc j'ai laissé passer quelques mois et puis l'état de Jean-Pierre a empiré. Effectivement, c'est devenu très dangereux pour moi, pour lui. Et donc, un jour, j'ai fait sa valise et on y est allé. La chance que j'ai eue, c'est que Jean-Pierre ne s'est aperçu de rien. Il n'a pas vu qu'on allait quelque part, il n'a pas dit mais qu'est-ce qu'on fait là, il n'a pas dit pourquoi tu t'en vas, il n'a pas dit rien. Pour lui, c'est passé comme ça, on l'a pris, voilà, on s'est occupé de lui, j'y allais tous les jours, mais pour moi ça a été horrible. Donc je sais, pour les aidants qui vont devoir peut-être un jour mettre la personne qu'ils aiment en EHPAD, c'est très très difficile, mais, ils sont mieux. Ils sont pris en charge, ils ont moins peur, ils sont moins perdus, les gens s'occupent d'eux gentiment en général, ça se passe bien. Et je crois vraiment, sincèrement, que pour eux, c'est mieux.
Alors Agathe, aujourd'hui, vous êtes engagée au sein de la Fondation Recherche Alzheimer comme membre actif. Et vous rencontrez beaucoup, beaucoup de monde, de personnes. Et justement, toutes les situations ne se ressemblent pas. Elles diffèrent d'une personne à l'autre. C'est ce que vous avez vécu vous-même avec votre maman et votre mari.
Oui, grossièrement, c'est la même chose. Alors avec des patients plus ou moins violents. Je pense que la différence, oui, c'est la violence, c'est l'agressivité, c'est sinon la perte de mémoire et le fait que tout à coup, effectivement, Jean-Pierre ne me reconnaissait plus, il me disait « bonjour monsieur ». Donc mais c'était pas ça qui faisait le plus mal. Ce qui faisait le plus mal, c'est de voir Jean-Pierre, que j'aimais passionnément, ne plus être Jean-Pierre. C'était plus Jean-Pierre, c'était un autre homme, c'était quelqu'un d'inconnu, c'était douloureux de le voir se désagréger. Ça, c'était très très douloureux. Et je pense que c'est un sentiment commun à tous les... J'ai parlé effectivement à des personnes qui ont eu des parents qui avaient Alzheimer, et on est tous d'accord pour dire que c'est cette perte de personnalité, cette perte de présence qui est la plus douloureuse. Et aussi peut-être d'envisager qu'eux aussi en souffrent parfois, en silence, ou en le disant, bon Jean-Pierre, je pense que par moment il s'en est aperçu, je pense que par moment il a été conscient qu'il n'était plus lui-même, mais en silence, d'autres le disent, mais c'est aussi une grande douleur pour eux.
Alors cet investissement, il est important pour vous, le fait de témoigner comme vous le faites aujourd'hui, c'est aussi continuer pour votre mari.
Oui, c'est-à-dire je m'étais engagée dans cette fondation pour la recherche pour la maladie d'Alzheimer il y a déjà 14 ans. Donc c'était au début, j'avais dit, ma mère venait de mourir assez peu de temps avant, enfin même beaucoup de temps avant, mais peu importe, de cette maladie qui m'avait tellement choquée, surtout qu'à l'époque, parce que ma mère l'a eue effectivement il y a très très longtemps et jeune, et on m'avait dit, mais on ne parlait pas de la maladie, donc entre deux portes à l'hôpital, on m'avait dit, oh, bah, écoutez, faut y faire, elle a la maladie d'Alzheimer. Voilà, et c'est tout. Et je me suis retrouvée avec ma mère sans savoir ce qu'était cette maladie et tout. Donc j'ai participé à cette fondation petit à petit, et puis je me suis beaucoup engagée, effectivement, quand j'ai vu que Jean-Pierre aussi était atteint. Voilà, c'est devenu, pas mon combat, parce que je ne peux pas faire grand-chose, mais à mon tout petit niveau, si je peux participer, si je peux aider, si je peux faire des choses qui, un jour ou l'autre, permettront d'avoir plus de sous pour la recherche, effectivement, je le fais. Je le fais, et je le fais volontiers. Et bien sûr, ce n'est pas du tout mon métier, ce n'est pas du tout mon univers, mais je me sens terriblement concernée et investie. Voilà, si je peux faire cette toute petite chose, eh bien, je la fais. Je voudrais juste vous dire un petit texte très court qui correspond tellement, tellement à ce que c'est que d'avoir un parent ou à ce que c'est que un malade de la maladie d'Alzheimer. Ne me demande pas de me rappeler. N'essaie pas de me faire comprendre. Laisse-moi me reposer et fais-moi savoir que tu es avec moi. Je suis triste, malade. Et perdu. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi. Ne perds pas patience avec moi. Rappelle-toi que le meilleur de moi est parti. N'abandonne pas. Reste à mes côtés. Aime-moi jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que ça résume parfaitement ce qu'on peut donner et ce qu'on peut faire auprès d'un malade de la maladie d'Alzheimer.
Un grand merci.